Les deux corps, élite 100%, masse créatrice 95%, se regardent en chien de faïence. Ils ne se parlent pas parce qu'ils n'ont pas la même langue. Par conséquent, ils ne peuvent déclencher le développement de notre société. Que faire? Il faut donc former. Soit nous formons 100%, c'est-à-dire la presque totalité de notre population en langue française. Cela nous permettra d'avoir la masse critique nécessaire pour articuler les élites autour des masses créatrices et notre développement deviendra une réalité. Mais, question, avons-nous les moyens d'éliminer cet océan d'illettrisme de 95% en les formant dans la langue française? Alors que les 10% envoyés à l'école ne produisent que 5% à peine, capables de maîtriser plus ou moins cette langue et ses subtilités. Nous gaspillons donc énormément de temps en cherchant à devenir des stars pour rien dans une langue étrangère non conforme à notre base cognitive. Nos enfants passent 17 ans sur les bancs jusqu'à l'université. Beaucoup traînent encore des lacunes dans cette langue. Dans ce cas où nous formerions 100% de notre population en langue française, une autre question. Accepterions-nous que la langue française devienne notre langue identitaire à jamais? Parce que ce faisant, toutes nos langues endogènes finiront par s'éteindre. Deuxième point. Il faut alphabétiser la masse créatrice de 95%. Soit nous décidons courageusement d'alphabétiser 100% de notre population dans une langue nationale de notre environnement immédiat. Nous leur apprenons à lire et à écrire cette langue puisqu'elle la parle déjà. Il y aura l'avantage cognitif parce que cette langue est logique pour notre sémantique et pour notre rhétorique. Ne dit-on pas que, je cite, « on innove, ne crie vite et bien que dans sa langue », fin de citation. Si nous le faisons, les masses vont s'emparer rapidement de cet outil endogène et familier pour asseoir les bases du développement authentique. Troisième point, il faut scolariser les enfants. Une petite étude nous a montré qu'on baisserait de 25 à 50% le coût de la scolarité en étudiant dans nos langues. Nos enfants gagneront 2 à 3 ans sur leur scolarité. Leur niveau de compréhension des phénomènes va sensiblement accroître. Le taux d'échec à l'école deviendra presque insignifiant et des génies se révéleront. Ce serait beaucoup plus facile. Au bout d'une dizaine d'années, une masse homogène d'intellectuels va émerger et commencer à se mettre en place. Nos premières élites, parfaitement autochtones, vont naître. Même à 5% d'élites, ils constitueront, avec la masse créatrice 95% qui serait déjà alphabétisée en langue nationale, ils constitueront donc ce qu'on appelle le CNDA, le Corps National de Développement Authentique. CNDA, Corps National de Développement Authentique. Le CNDA, dès qu'elle atteindra une taille critique, nous entendrons parler au Bénin et en Afrique d'invention, d'innovation typiquement africaine. C'est ça qui va être le début de l'émergence. Une nation émerge lorsqu'elle se développe et apporte un complément de savoir, savoir-faire à l'humanité. Elle entre alors dans le concert des nations. Donc, la langue nationale unique n'est pas une problématique de région, d'ethnie, d'ego et que sais-je encore. La langue nationale unique est une question éminemment économique. une question de développement. Nous ne devons donc pas poser la question de la langue nationale unique sous une forme conflictuelle, mais la voir comme une opportunité de développement économique. La langue nationale unique est un outil de développement qu'un pouvoir choisit pour bâtir une nation. Grand B. Des exemples à travers le monde. Quelques remarques. Premièrement, aucun grand pays sur la planète ne présente une homogénéité de langue originelle sur son territoire. Tous les pays, comme au Bénin, ont des régions habitées par des tribus, des ethnies, et donc caractérisées par des langues. Si un pays parvient à une langue nationale unique, c'est toujours grâce à une volonté politique. Deuxième remarque. Sur toute la terre, il n'y a que les peuples d'Afrique noire, dont le Bénin, qui ne parlent pas leur langue, mais une langue coloniale. Ils éduquent leurs enfants dans cette langue. Vous pouvez aller vérifier. Troisième remarque. Les États-Unis sont une colonisation de peuplement par les Anglais essentiellement. Ils ont exterminé les Indiens peaux rouges qui s'y trouvaient. La question d'une langue unique nationale s'est trouvée ainsi résolue. Un autre exemple. Il en est de même des autres États de l'Amérique latine. Les populations autochtones ont été décimées par la maladie importée par les premiers colons. Ainsi, au Brésil, on parle le portugais. C'est leur langue. Sur toute la terre, depuis la nuit des temps, vous devez remarquer, la première des choses que fait une nation victorieuse sur une autre nation vaincue, c'est d'éradiquer sa langue. Intérêt personnel bien compris oblige. En 1894, dès son drapeau implanté au dents romain, la France a imposé, aussi bien avec brutalité que subtilité, sa langue française. À l'inverse, lorsqu'une nation se libère, elle cherche à rétablir sa langue en premier. Instinct de survie oblige. Qu'en est-il des pays d'Afrique noire depuis 1960 alors? C'est le thème de ce document, n'est-ce pas? Dans un conformisme suicidaire depuis 57 ans, la question n'est même pas d'actualité. Elle crée même des réticences et des convulsions si on l'aborde. Maintenant, quelques exemples à travers le monde. Premièrement, prenons le cas de la France. Le latin, langue du colonisateur romain, était la langue officielle française. À côté du latin, et même jusqu'à aujourd'hui, subsiste en France une multitude de langues. C'est en 1534 que François Ier va décider d'instaurer le français, langue parlée dans le bassin parisien et imposée à tout son royaume. Deuxième exemple, les pays européens. Tous les pays européens précédemment sous l'Empire de Rome vont chacun s'orienter vers une langue nationale unique. Le français, on en a déjà parlé. L'anglais, l'espagnol, le portugais, hollandais, suédois, norvégien, etc., etc., etc. Même les Lettoniens, les Lituaniens, les Estoniens ont automatiquement abandonné la langue russe au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1989. Avec les récents événements en Ukraine, on a assisté au même phénomène. l'abandon automatique de la langue russe au profit de la langue ukrainienne. Remarque, cela fait 57 ans que les pays d'Afrique noire sont indépendants. Ils n'ont pas encore posé la question de leur langue nationale unique. Troisième exemple, la Chine. Elle a une multitude de langues sur son territoire. Chaque minorité peut lire et écrire sa langue. Mais c'est le mandarin qui est choisi comme langue nationale officielle. Il va donc de soi que les pays d'Afrique noire, dont le Bénin, finissent par mettre la question de la langue nationale unique sur la table pour y apporter une réponse rapide. Leur développement en dépend. Quatrième point, le Front souverain. Le Front souverain propose une piste. Ça va être la suite.